Ici Paris, Radiodiffusion française présente
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Nefertiti.
Inclinez-vous devant votre pharaon, votre dieu, maître de la basse et de la haute Égypte, Amenophis IV.
Mes amis, relevez-vous, admirez le soleil. C'est Aton, dieu de vie, d'amour et de justice. Voici Nefertiti, votre reine, l'enfant chéri du soleil.
La dame de joie, pleine de grâce, son buste revenu au jour il y a 100 ans précisément, en décembre 1912, est transportée ensuite à Berlin et reçoit sous son coffrage de verre 1 million de visiteurs chaque année. Son nom et celui de son époux, devenu le pharaon Akhenaton, créateur au XIVe siècle avant notre ère d'une hérésie mort-née, avait été rayé des annales royales. Et voilà qu'après avoir été refoulé de l'histoire, il figure en très bonne place dans la mémoire commune de l'humanité. Le paradoxe est d'autant plus grand que Nefertiti, comme Akhenaton, demeure une demi-inconnue. D'où vient-elle? Quand et dans quelles circonstances est-elle morte? L'absence d'informations laisse le champ libre aux spéculations et aux légendes. Pour nous parler de cette brève période qui a laissé un si long sillage, et puis aussi de son art qui a marqué une très grande rupture dans les conventions traditionnelles de l'Égypte, Guillemette Andreu-Lanoë, bonjour.
Bonjour.
Directrice du département des antiquités égyptiennes au Louvre. Et pour une fois, vous n'allez pas nous parler du Louvre, Guillemette Andreu, mais d'une exposition qui se tient à Berlin, auquel le Louvre n'a pas collaboré.
Si on a prêté des œuvres.
Ah, quand même. Ainsi que le British Museum, ainsi que les musées américains, et qui est intitulée « Dans la lumière d'Amarna ». Amarna, c'est la capitale qu'ont créée Akhenaton et Nefertiti. Alors, on se met d'accord sur les noms. Ce pharaon, à l'origine, ne s'appelait pas Akhenaton?
Non, il s'appelait Amenhotep. Il était le quatrième à régner sous ce nom.
Mais tout à l'heure, on a entendu dans l'exergue Amenophis IV. Ça, c'est l'ancienne titulature utilisée par les Français.
Les égyptologues français, pendant très longtemps, ont écrit Amenophis. Sur nos cartels au Louvre, il y a encore écrit Amenophis. Mais il est à peu près entendu dans toute la communauté scientifique qu'il vaut mieux dire Amenhotep. Car Amenophis ne transcrit pas exactement Amenhotep, qui est la façon dont ça se lit en égyptien.
Dont acte, Guillemette Andreu. On est sous le Nouvel Empire où se succèdent des empereurs aux physiques athlétique et au long règne.
Oui, le Nouvel Empire, c'est l'Empire des conquérants, comme le titre du deuxième volume de l'Univers des formes consacré à l'Égypte. L'Empire des conquérants, c'est celui des Toutmosis, Hatshepsut, la reine pharaon qui a joué un rôle majeur dans cette dynastie qui est la 18e dynastie. On est au 14e siècle avant notre ère, il y a aussi donc tous les Amenophis.
Et, Amenhotep.
Amenhotep, pardon. Et il y a tous les Amenhotepes et on voit se succéder des pharaons conquérants, effectivement, extrêmement, dont le physique, si on en croit la représentation officielle royale, les montre comme très athlétiques et très conquérants et très sûrs d'eux et étendant les frontières de l'Égypte jusqu'au Soudan largement et vers la Palestine et même jusqu'à la Turquie pour certains d'entre eux.
Corrigez-moi si je me trompe, Amenophis III, âgé, prend comme co-régent son second fils, qui sera Amenophis IV.
Exactement.
Mais il faut me corriger, là. Il faut dire Amenhotep.
Oui, mais là, je ne voulais pas avoir l'air désagréable parce que vous l'avez été, mais je veux moi-même être très souriante comme le pharaon Akhenaton. Si on l'appelait Akhenaton, c'est une bonne idée.
Il va devenir Akhenaton.
Et puis en même temps, c'est bien pour lui parce que si on veut célébrer sa mémoire, le fait qu'il ait cherché à changer de nom et transformer son nom qui contenait le nom du dieu Amon en un autre nom avec le nom du dieu Aton qu'il a aimé par-dessus les autres. Eh bien, c'est quand même plus sympathique pour sa mémoire de l'appeler comme il l'a souhaité.
Oui, il est encore co-régent aux côtés de son père.
De son père.
Continue de lui faire de l'ombre quand il se marie avec la belle qui est venue.
Ô maître du trône, de la haute et de la basse Égypte, roi divin, que ce sang abreuve ta sagesse, longue vie à ta nouvelle épouse.
Ce sacrifice est donné en l'honneur de votre nouvelle épouse. L'oracle favorable vous prédit bonheur et fertilité.
Je ne cherche plus le bonheur. Je veux seulement un fils digne de me succéder. Né de la femme la plus belle.
Je ne veux pas être désagréable, mais vous ne connaissiez même pas le film de Guy Gilles.
Oui, ça, c'est une grave lacune.
Ben, c'est un très bon cinéaste.
Oui, bien sûr.
Au pan coupé, d'autres grandes œuvres, évidemment. Ça, c'est sa dernière œuvre. La dernière qu'il ait signée en 1996, c'est peut-être un film alimentaire, ou bien il était attiré par la réputation qu'a eu souvent Akhenaton d'être homosexuel, voire eunuque. En fait, il a eu plein de filles, après ces vœux qui ont été prononcés là, à l'instant du mariage qu'on vient d'écouter.
Oui, effectivement, donc Amenhotep IV, dit Akhenaton, épouse une femme dont le nom signifie la parfaite est arrivée, parce que est venue, c'est le même verbe qui signifie arriver et venir en égyptien, donc c'est nous qui ne savons pas très bien le traduire, et donc elle est arrivée, comme on peut dire d'un bébé qu'il est le bienvenu, c'est à peu près la même chose, et cette femme venait d'une bonne famille, de la région d'Armim, qui se situe en Moyenne-Égypte, et sa famille, sa tante en particulier, était déjà bien installée dans la famille royale, puisqu'elle était, sa tante était la femme du père d'Amenhotep IV, Akhenaton. Donc ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, mais
beaucoup
ce ne sont que des filles, après, six filles.
C'est un petit peu comme dans la famille Andreu. néanmoins, cette épouse... c'est la principale épouse, elle peut être flanquée d'épouses secondaires.
Oui, effectivement, il est tout à fait courant et légal, on peut dire, que le pharaon en particulier ait un harem, et que ce harem soit souvent constitué d'ailleurs de princesses qui viennent des pays voisins avec lesquels ils ont signé des traités de paix. Avec les Hittites, par exemple, il y avait une princesse hittite, il y avait des princesses qui venaient des régions extérieures, étrangères, et qui symbolisait en fait la paix qui avait été contractée entre les États soumis, on va dire, et le pharaon Akhenaton. Mais le fait est que Néfertiti a quand même bien tenu son rang de première dame, et qu'elle a joué un rôle et clérical et politique majeur.
Notamment dans la promotion du nouveau culte qui s'inscrit, c'est un culte du soleil, dans la tradition de Ra, de Ré, d'Héliopolis.
Alors, c'est une question tout à fait pertinente.
Merci d'être agréable avec
parce
moi.
Parce que on sait que dès les pharaons de la 5e dynastie, vers 2500 avant notre ère, les pharaons ont eu à cœur d'inscrire leur nom dans des symboles qui s'appellent les cartouches et de faire procéder cette inscription d'une désignation. Alors, il peut y avoir le roi de Haute et Basse Égypte et puis le fils du soleil. Ça, à partir de la 5e dynastie, et là, on est à la 18e, donc presque un millénaire après, les pharaons étaient dix fils du soleil. Or, la grande révolution qu'a voulu Akhenaton, Amenhotep IV, a été non plus d'instaurer Ré comme dieu majeur du panthéon égyptien, mais le disque, le globe solaire, Aton.
Les prêtres et les courtisans le craignent. Ils disent que c'est un hérétique qui adore secrètement un nouveau dieu, Aton, le disque solaire. Il affirme que les dieux égyptiens sont enfoncés dans des tanières et les hommes dans la peur, qu'ils sont cruels. Il a tourné son visage vers le soleil qui se lève chaque jour, redonnant vie et lumière à toute chose.
Lorsque tu te couches dans l'horizon occidental, l'univers est plongé dans les ténèbres et comme mort. Les hommes dorment dans les chambres, la tête enveloppée, et aucun d'eux ne peut voir son frère. Tous les lions sont sortis de leur antre et tous les reptiles mordent. Ce sont les ténèbres d'un four, et le monde gît dans le silence. C'est que leur créateur repose dans son horizon. Mais à l'aube, dès que tu es levé à l'horizon, et que tu brilles disque solaire dans la journée, tu chasses les ténèbres et tu émets tes rayons. Alors le double pays est en fête, l'humanité est éveillée et debout sur ses pieds. C'est toi qui les as fait lever. Sitôt leur corps purifié, ils prennent leurs vêtements et leurs bras sont en adoration à ton lever. L'univers entier se livre à son travail.
Alors c'est à la fois une religion réaliste, on sent le lever après le coucher, le travail de la terre, et on dit aussi que c'est une religion élitiste, un peu abstraite, j'allais dire froide. Ce qui est
oui,
paradoxal
c'est une religion,
pour une religion solaire.
Vous avez tout à fait raison, c'est une religion conceptuelle, dans la mesure où le disque solaire, évidemment, son lever, son coucher sont visibles en Égypte tous les jours de l'année ou presque, mais là, il est vraiment abstrait, disons, extrait de sa fonction rayonnante pour en faire le dispensateur de la vie. Et très régulièrement, il est représenté sur les stèles, par exemple, où il inonde de ses rayons, et au bout des rayons sont dessinés ou sculptés des mains, ce qui prouve aider dans les mains, il y a le signe de la vie, le mot or, qui veut dire vie en égyptien. Donc c'est tout à fait vrai que le dieu soleil, Aton, qui est un disque. Madame Desroches-Noblecourt disait que c'était un globe et c'était juste de le définir comme ça parce qu'il n'était plus en fait en représentant deux dimensions, mais en trois dimensions. Il était toujours bien bombé. Et ce disque, ce globe, est le dispensateur de la vie. C'est grâce à lui, c'est ce que disent d'ailleurs les très beaux poèmes qui ont été écrits soit par Akhenaton, soit du temps de Akhenaton. Et c'est lui qui fait que les poissons sautent de la rivière, que les champs deviennent verts et que la vie est donnée à l'humanité.
Alors la vie est grouillante sous l'autorité dynastique et les oppositions sont nombreuses, notamment de la part du clergé d'Amon, plus tard des militaires, ce qui fait que face aux tensions qui règnent dans la capitale traditionnelle, Thèbes, le couple Néfertiti Akhenaton prend une décision.
Les prêtres sont avides de puissance et d'or. Leur religion ne sert qu'à servir le peuple.
Oh, Aton, tu as créé la terre tout seul, selon ton cœur. Tu nous laisses libres de décider de notre vie.
Chacun choisit son destin.
Nous quitterons Thèbes, descendrons le Nil, et créerons une ville heureuse tout entière sous la protection du dieu soleil. Aton, la cité de l'horizon.
Qui est à 300-400 kilomètres des capitales traditionnelles en Moyenne-Égypte.
Oui, je dirais plutôt 250 de Louxor Karnak, au nord, effectivement. On est vraiment dans un endroit, dans un nomad's land qui a été distingué par le pharaon et son épouse Néfertiti pour établir une nouvelle capitale, rompre radicalement avec les riches prêtres du clergé d'Amon. Vraiment, c'est une révolution culturelle, politique, sociale et sociétale qui entraîne une grande partie de l'élite égyptienne qui suit son pharaon. Et là, dans un endroit où il n'y avait rien, mais on n'est pas loin du Nil, donc tout pouvait pousser, à condition de savoir irriguer, et ça, ils savaient faire ça très bien, ils établissent une capitale sur une superficie de 16 km sur 13 environ. C'est-à-dire
alors, plusieurs salles de l'exposition de Berlin qui vient d'ouvrir, consacrée à la lumière d'Amarna, oui. Essaye de reconstituer cette ville et cette exposition. On va y venir maintenant et parler de l'art de cette époque qui est organisé évidemment autour du fameux buste de Néfertiti qui, depuis près d'un siècle, est à Berlin.
Berlin-Ouest en particulier s'est approprié de manière identitaire ce buste de Néfertiti. Si vous regardez des guides de voyage des années 80, avant la chute du mur, l'œuvre que tous les touristes doivent aller voir à Berlin-Ouest, c'est le buste de Néfertiti au château de Charlottenburg. Les Berlinois de l'Ouest se sont tant identifiés à cette œuvre d'art qu'elle a pratiquement, si on regarde un peu le marketing qui est fait autour d'elle ces dernières années, le statut de Marlène Dietrich. On l'appelle la vieille dame, elle est sur toutes les affiches de Berlin, on la voit dans le métro. C'est donc une partie du patrimoine berlinois d'après-guerre.
Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nefertiti, la juxtaposition de Nefertiti avec Marlène n'est pas si absurde. La sexy Lola, vous trouvez Nefertiti plus froide, vous guillemette André Lanoé?
Je trouve, oui, elle est plus froide, elle est effectivement plus hiératique. Elle cherche moins à être souriante, à vrai dire.
Alors, on a laissé Nefertiti et Akhenaton triomphant à Amarna, mais on pourrait dire que peu d'années après, c'est Amarna année zéro, comme il y a eu Berlin, année zéro. Je continue à filer le parallèle avec Marlène Dietrich, parce qu'au bout de la 10e, 12e année du règne, des résistances de plus en plus vives se sont fait jour, des tensions aussi à l'extérieur, effondrement économique parce que tous ces chantiers coûtent bien cher et le désordre gagne l'Égypte. Et ça va très mal se terminer pour le couple.
C'est-à-dire que ça va mal se terminer dans la mesure où effectivement, on va dire que le peuple n'a pas suivi et les mouvements académiques n'ont pas suivi non plus. Ils ont été très perturbés par cette instauration d'un quasi-monothéisme. Et tout cela a quand même beaucoup dérangé des clergés qui étaient très puissants et très possédants aussi. Et le fait est qu'ils n'ont rien fait pour que l'aventure tout à fait extraordinaire de l'hérétique Akhenaton soit autre chose qu'une courte aventure.
Nefertiti, son sort est incertain. On sait qu'Akhenaton est mort après les vendanges de la 10e année de son règne. Nefertiti, elle a fini comme Joséphine à la Malmaison, un peu à l'écart, ou elle est morte prématurément?
Alors, on ne sait pas du tout comment elle est morte, puisqu'on n'a pas retrouvé sa momie ni sa tombe. Donc, si vous voulez, on n'a pas d'idée de ce qui lui est arrivé. Ce que l'on sait, c'est que le pharaon, comme elle n'a eu que des filles et que Akhenaton voulait un héritier mâle, non seulement il avait un harem depuis le début, mais et là, il avait quand même jeté son dévolu sur une princesse qui s'appelle Kiya. Et on sait aussi que Toutankhamon, qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'égyptologie, beaucoup plus que dans l'histoire de l'Égypte ancienne, à vrai dire, eh bien, Toutankhamon est le fils d'Akhenaton. C'est un homme. Et,
mais c'est le fils d'Akhenaton et de Kiya, alors, de l'époque secondaire.
Alors, ça n'est pas tout à fait sûr. Ah. Hein, là, la mère, c'est ce qu'on dit, mais tous les archéologues ne le disent pas, donc je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est un débat très récent et il n'est pas forcément tranché. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que Toutankhamon, le jeune pharaon, est le fils d'Akhenaton et pas de Nefertiti.
Alors, sous Toutankhamon, les valeurs traditionnelles vont commencer à être restaurées. Peu de temps après, Amarna va être systématiquement rasée et retrouvée quand même dès le 18e siècle, inventoriée sérieusement dès le 19e siècle, notamment par des Allemands.
Oui, vous parlez du site archéologique, oui. Effectivement. Bon, il a été abandonné comme tous les sites civils, je dirais. Hein. C'est-à-dire que les sites civils de l'Égypte pharaonique, on n'en a quasiment pas de vestiges, si vous voulez, puisque ce sont des édifices en briques crues, et que soit une crue un peu importante, soit des pluies, soit simplement les érosions éoliennes font que ces briques fondent très vite et qu'on n'a quasiment pas de vestiges civils de l'Égypte pharaonique. Donc Amarna est mort de sa belle mort, a été réenseignée sablé aussi par les vents de sable, et c'est ce qui a sauvé la conservation de cet atelier de sculpture et de sculpteur, du sculpteur Toutmosé, à l'intérieur duquel on a retrouvé, entre autres, le buste de Nefertiti.
Il y a des palais, il y a des temples, il y a des villas, et une des villas, c'est la villa d'un sculpteur.
Alors, c'est dans un quartier artisanal que ça se situait. C'est pas dans sa villa, c'est dans un atelier de sculpture. Et c'est un quartier artisanal. Et dans une des pièces, la P42, on a retrouvé non seulement le buste de Nefertiti, mais des dizaines de modèles de sculpture. Donc, c'est tout à fait extraordinaire parce qu'on a vraiment face à soi des plâtres qui ont servi de modèles pour sculpter.
Alors, on sait où on est. P42, vous avez bien retenu. On sait qu'on est en décembre 1912, soit à peu près 10 ans avant la découverte de la tombe de Toutankhamon. Écoutez bien l'accent de l'archéologue, vous allez peut-être distinguer sa nationalité.
À gauche, à gauche, à gauche!
Là, comme ça. Doucement, là,
doucement! Doucement, je te dis, doucement!
C'est ça, comme ça,
comme ça.
Très doucement.
Doucement, doucement, maintenant, doucement!
Nul n'a jamais vu pareille beauté.
Il manque un œil à cette statue.
Il n'y a jamais eu d'œil gauche à cette statue.
Je la recherche depuis toujours.
Où l'est ?
Alors, c'est un peu atonal, évidemment, le film de Guy Gilles, c'est le dernier extrait qu'on en entend. Mais c'est un archéologue allemand.
C'est un archéologue allemand qui était...
Ludwig Borchardt,
oui, qui avait travaillé au consulat d'Allemagne et qui ensuite avait fait de l'égyptologie et s'est vu confier par un fabricant de, très riche de vêtements allemands qui s'appelait Simon. Il s'est vu confier la fouille d'Amarna.
Alors, on se souvient de la coiffe, même si on n'a pas l'image sous les yeux, du cou gracile, l'œil gauche manque, sans doute la conséquence d'une chute.
Ah non, ça n'est pas du tout sûr. Ça, on peut considérer que le buste de Nefertiti est un modèle de sculpture et qu'il n'y avait pas besoin de faire les deux yeux.
Oui. Mais on dit que l'art amarnien, parlons un peu d'amarnisme,
oui.
C'est une bien sous-discipline volontiers. Dans l'égyptologie, est marqué par le réalisme et même l'exagération de la réalité jusqu'à la caricature.
Oui, c'est une volonté sans doute royale de représenter la famille royale et même les courtisans qui travaillaient et qui étaient tout près du pharaon, avec des très particulièrement exagéré, comme un ventre très ballonné, mais c'est pas seulement le pharaon dont on imagine qu'il avait une maladie qui le montrait ventripotent et qui lui permettait d'être montré ventripotent, mais Bach, qui est aussi bien représenté, qui est un courtisan dont la sculpture est à Berlin, et montre également ce ventre. Et beaucoup de talatates, c'est-à-dire de fragments qui permettent de d'ériger des parois dans les temples solaires voulus et décidés par Akhenaton, montrent toutes les serviteurs, tous les artisans, avec un menton très en avant, un crâne très allongé vers l'arrière et un ventre très, très avancé.
Alors ça, c'est un code, c'est du réalisme, c'est les conséquences de la représentation qu'on veut réaliste d'une maladie.
Non, je crois que c'est un code, comme ça peut être une mode, hein, une mode esthétique et artistique. Et peut-être aussi parce que le pharaon était doté de ses traits particuliers et que, il était... nécessaire d'être vu de la même façon et montré de la même façon lorsque on voulait être dans les grâces du pharaon. Le fait est que c'est un art tout à fait intrigant. C'est important en même temps parce qu'on a vraisemblablement dans tous les masques de plâtre qui ont été retrouvés dans l'atelier de sculpture de Thoutmose à Amarna, on a sans doute des portraits. On a par exemple beaucoup de représentations de personnages vieux. Alors qu'en général, vous vous promenez dans une tombe égyptienne, que ce soit à Saqqara ou à Louxor, tout le monde est jeune, toutes les femmes font 1m70 et font du 38, alors que là, on voit vraiment des vieux. C'est très très impressionnant dans l'art amarnien de voir ces représentations très réalistes ou de gens qui ont l'air soucieux. Par exemple, même la reine Ti, qui était la mère d'Akhenaton, elle est souvent montrée en train de froncer les sourcils.
C'est... Alors, vous n'avez pas beaucoup de représentations de Nefertiti au département des antiquités égyptiennes du Louvre. Il y a quand même le duo, le couple.
Oui, il y a une dyade charmante, petite en calcaire.
Et sa femme qui se tiennent la main.
Oui, c'est, on a très peu de choses parce qu'on n'a pas du tout fouillé à Amarna, en fait. Vous savez que la plupart de nos collections viennent de partage de fouilles et qu'on n'a pas eu l'occasion ni d'acheter en Égypte, ni de travailler là-bas.
Alors, venons-en à ce qui s'est passé peu après la découverte par les Allemands en 1912. Berlin prétend qu'il y a des preuves d'achat par la Prusse ou l'empereur d'Allemagne de ce buste de Nefertiti. Il a bien fallu une opération de passe-passe quand les contrôles pour le départ des antiquités égyptiennes à l'époque étaient faits par des Français.
Bon, alors d'abord... Le fait est que la plupart du temps, c'était des Français, mais c'était des fonctionnaires du gouvernement égyptien. Donc il faut savoir, excusez-moi de vous faire une petite leçon d'histoire, mais c'est Mariette quand même qui a créé le service d'antiquité égyptienne. C'est lui qui a créé le musée du Caire. C'est lui qui a fait toute une législation patrimoniale pour que les œuvres égyptiennes restent sur place. Donc on ne peut pas accuser les Français d'avoir favorisé l'évasion vers l'Allemagne. Surtout en 1912 ou 1913.
Enfin, le pacha d'Égypte n'était pas très content, paraît-il, à l'époque. Et non plus, on va passer maintenant à 2007. Toujours la même question restitutions. Zahi Hawass, tout puissant à l'époque, secrétaire général des antiquités égyptienne et pourtant elle tourne France Inter.
Je crois vraiment que les chefs-d'œuvre uniques, jamais vus par les Égyptiens eux-mêmes, devraient être exposés ici pour un temps donné. C'est pourquoi j'ai écrit aux Allemands afin qu'ils nous prêtent le buste de Nefertiti pour qu'il soit exposé au grand musée qui ouvrira d'ici 5 ans. J'espère que ces institutions diront oui et voudront coopérer avec nous. Nous leur garantissons que ces chefs-d'œuvre seront traités en toute sécurité. Mais si ces musées ne sont pas d'accord, il y aura une guerre entre ces institutions et l'Égypte. Je crois que vous devez toujours traiter les gens de la même façon qu'ils vous traitent. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas capables de prêter ces objets, je ne les autoriserai plus à faire quelque travail scientifique que ce soit en Égypte. Je ne demande pas à Nefertiti de revenir pour toujours. Je demande que Nefertiti vienne seulement en visite et puis reparte.
Évidemment, rien ne s'est passé exactement comme le prévoyait le malheureux, je pense que c'est l'adjectif que je peux employer, Zahi Hawass.
Oui, mais il a fait beaucoup de gens très malheureux, donc finalement...
Et qu'est-ce qu'il est devenu depuis la
révolution
arabe ?
Eh bien, il est chez lui, on lui a retiré son passeport et il est soupçonné d'avoir touché quelques pots de vin lors des constructions sauvages de baraques commerciales sur les sites archéologiques.
Enfin, tout de même, il n'est pas faux dans ce qu'il disait. Je lis, est-ce exact, dans la presse française, que, par exemple, le musée de Berlin qui expose la lumière d'Armana n'a pas eu le temps de nouer des collaborations avec les nouveaux services des antiquités égyptiennes au Caire.
Je suis ravie que vous me posiez cette question parce que moi, je n'ai pas tout à fait cette vision-là. D'abord, sur le carton d'invitation, le ministre d'État aux Antiquités, Mohamed Ibrahim Ali, est une des personnalités invitantes. Donc, il était tout à fait d'accord pour que cette exposition ait lieu et pour que Nefertiti soit montrée en tant que, icône du musée égyptien de Berlin. Par ailleurs, ma collègue Frédéric Seyfried, à l'invitation des Égyptiens du service d'Antiquité, le mois dernier, a fait une conférence expliquant le pourquoi et le comment de cette exposition, rappelant que Nefertiti relevait du patrimoine universel et qu'elle appartenait aux Berlinois comme aux Égyptiens et qu'elle pensait que c'était une très bonne vitrine pour l'Égypte et que ça pouvait inciter les visiteurs du musée à retourner en Égypte pour faire aussi marcher l'économie égyptienne. Et les Égyptiens qui étaient des directeurs du musée qui étaient là n'ont absolument pas pipé mot.
Très bien. Eh bien, c'était un salut de Guillemette Andreu, directrice des antiquités égyptiennes au Louvre, à ses collègues de Berlin. L'exposition Amarna à Berlin jusqu'au mois d'avril et aura commencé en mars, je crois, la vôtre propre, le dessin égyptien.
Oui, en
avril
2013.
Eh bien, ça coïncide parfaitement. Comme exactement. D'ailleurs notre sujet de demain, où on va parler d'un dessinateur qui était aussi photographe et qui était aussi écrivain et qui s'appelle Pierre Loti.